Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ça a été un très gros challenge. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que je me remettrais un peu jamais de cette décision. Et le jour où elle a été prise, moi, je m'en rappellerai toute ma vie, hein, parce que ça a été forcément très dur et une grosse déception. Mais j'étais tout de suite tourné sur le on va dire une nouvelle page.
Salut, c'est Hugo de Hugo Décrypte. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur le podcast de l'interview de Mashup. Alors, chaque semaine, je reçois une personnalité, quel que soit le domaine. Ça peut être un artiste, un journaliste, un sportif ou encore un youtubeur avec qui je me pose dans le salon, confortablement installé dans les fauteuils pour revenir sur son parcours et sur les points de bascule de sa vie. Ça donne des échanges très souvent riches en enseignements. Bienvenue, du coup, si vous êtes nouveau, pensez à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les suivants. Je termine avec deux petites infos supplémentaires. Cette interview se fait dans le cadre de mon émission Mashup, diffusée sur la chaîne Twitch Hugo Décrypte chaque mercredi à 20h. Donc pour vivre cet échange en direct, rendez-vous directement sur Twitch chaque mercredi. Et par ailleurs, pour découvrir le reste de l'émission Mashup en podcast et notamment les actualités, eh bien vous pouvez taper Mashup les actus directement sur votre application de podcast. Je vous souhaite une très bonne écoute.
Pierre Gasly, salut.
Salut.
C'est un vrai plaisir de te recevoir ici.
Moi aussi, ouais. Merci de m'inviter.
C'est chambé, on va pouvoir discuter pendant là, une bonne demi-heure, revenir sur les points de bascule, donc les moments qui ont fait qu'aujourd'hui tu es là où tu es, un grand pilote de Formule 1. Pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est peut-être le cas de certains qui ne suivent peut-être pas forcément la F1. Tu es un pilote français, tu as tout juste 26 ans.
Exactement, ouais, quelques jours.
Voilà, depuis quelques jours. Membre de l'écurie AlphaTauri. Et voilà, c'est... j'allais dire un espoir, mais c'est plus qu'un espoir aujourd'hui de la F1 parce que tu as déjà remporté un Grand Prix, tu as déjà eu plusieurs podiums, donc c'est un vrai plaisir de te recevoir, une vraie chance de t'avoir ici pendant une bonne demi-heure pour revenir sur les points de bascule de ta carrière. Et donc on va passer en revue plein de choses, évidemment on va parler de F1 tout à l'heure, on va parler de tout ça, mais je te propose, si ça te va, de commencer avec le tout début pour toi avec la F1. Et avec avant ça, la F1, il y a le kart.
C'est ça.
Toi, premier point de bascule, je voudrais commencer en parlant d'un cadeau, de Noël que t'as eu. À tes 8 ans, on t'offre un mini-kart d'occasion. Et on peut le dire, tu tombes amoureux, je ne sais pas si c'est le mot, si on peut tomber amoureux d'un objet, mais il y a vraiment quelque chose qui se forme avec ça. Tu te souviens de tes débuts comme ça dans le kart, de tes premières courses, de tout ça?
Complètement. C'est un moment que j'arrive encore à ressentir la première fois que je suis monté dans un kart, donc à l'âge de 6 ans. Je viens d'une famille qui était déjà dans le sport automobile. J'ai 4 grands frères, 3 qui ont fait de la course automobile, donc qui ont fait des courses de kart. Donc depuis l'âge de 2 ans, je respirais les pots d'échappement, les pneus, j'étais sur les circuits pour les soutenir. Donc j'ai toujours eu cette envie d'essayer. J'ai commencé par le hockey sur glace quand j'avais 3 ans. J'ai fait du foot à l'âge de 5 ans.
Hockey sur glace à 3 ans ?
Ouais, c'était un peu compliqué sur les patins. Mais j'ai toujours été vachement dans le sport. Et après, j'ai essayé un kart pour la première fois à l'âge de 6 ans. Et ça a été le déclic pour moi dans ma vie. J'étais déjà grand fan de Formule 1, mais j'ai eu tout de suite cette envie de faire ce sport. J'ai dû pousser mes parents pendant 2-3 ans pour vraiment leur montrer que j'avais envie de faire ça. C'est quand même un sport qui est très particulier. Et du coup, ils m'ont offert mon premier kart à l'âge de 8 ans. Donc, j'avais le plus gros cadeau de Noël, je me rappelle. C'était la première fois et je m'étais dit,
pour emballer un truc comme ça, je suis pas sûr.
Ça prend un petit peu de place au pied du sapin, mais c'était vraiment... c'est là que tout a commencé.
C'est vrai que tu parles de la question de l'entourage, c'est important parce que pour ceux qui ne connaissent pas forcément ce milieu-là, c'est un milieu qui demande beaucoup d'engagement à tout point de vue, en termes de temps, en termes d'engagement financier. Toi, tu as compté sur qui pour faire en sorte d'arriver à entrer dans ce milieu-là qui est quand même pas facile toujours d'accès ?
Il faut le savoir, à cet âge-là, sans ma famille, jamais de la vie j'aurais pu en arriver là où j'en suis. Et même pas la moitié, c'est un sport qui demande énormément de temps, d'investissement personnel. Pour moi, ça a été un projet familial. Comme j'ai dit, j'ai 4 grands frères. Je suis le petit dernier, on va dire. Maintenant, j'ai 26 ans depuis quelques jours. Mais ça a été vraiment un effort et des sacrifices de la part de tout le monde dans ma famille et surtout de la part de mes parents. Et j'ai eu la chance, on va dire que mes parents ont grandi dans le sport automobile. Donc, ils ont rencontré des personnes de ce milieu-là. Et ils connaissaient les contraintes en termes, les contraintes financières, parce que c'est un sport qui coûte cher. Et dès les débuts, mes parents, surtout ma mère, revenait du taf à 7h, 8h. Et je la voyais essayer de trouver des sponsors jusqu'à 2h du matin pour faire en sorte que d'une année à une autre, je puisse continuer mon rêve. Donc ça a été assez intense.
Donc c'est des sacrifices, y compris financiers, y compris en termes de temps, que toi, tu as ressenti ou que tu as vu aussi auprès de ta famille. Et comment tu vis ça? C'est-à-dire que toi, tu étais content que tes parents fassent ça? Tu étais gêné de ça? Tes parents étaient tellement à fond que tu disais, bah go.
En fait, ça a toujours été mon rêve d'être pilote et surtout champion du monde de F1. Donc j'ai grandi dans les années Michael Schumacher avec Ferrari qui gagnait tous les Grands Prix. Et pour moi, je me suis dit, c'est cette vie que je veux. Et je suis le genre de personne, je suis ultra compétiteur. Et quand je fais quelque chose, soit je le fais à 100% pour me donner toutes les chances d'y arriver, ou soit je ne le fais pas du tout. Et le karting, depuis tout petit, je me suis dit, je fais ça pour être le meilleur, pour y arriver. Et le fait de voir mes parents se donner autant pour moi, ça a aussi été de temps en temps, ça a été un petit peu gênant, parce que je voyais tous les sacrifices et en soi les risques aussi, parce que ça n'a pas toujours été simple.
C'est une pression aussi pour toi de te dire, il faut que j'assure
derrière. C'est une pression, mais d'un autre côté, une fierté de me dire, et une chance de voir que mes parents ont vraiment tout donné pour moi. Et d'un autre côté, j'étais fier quand je pouvais, quand j'arrivais à gagner déjà. J'ai toujours fait ça pour moi parce que ça a été mon plaisir de faire la course automobile et de pouvoir gagner les courses, mais bien sûr de pouvoir le partager avec eux et de leur montrer que tous les efforts qu'ils faisaient pour moi pour y arriver n'étaient pas pour rien, parce que je le prenais vraiment au sérieux pour y arriver.
Donc on aurait pu avoir un Pierre Gasly en NHL en hockey sur glace aux États-Unis, Pierre Gasly en Formule 1.
Il y avait plus de chances en foot parce que le hockey, ça s'est arrêté assez tôt. Après, j'ai fait du foot pendant 5-6 ans. Et c'est pareil, comme je dis, je suis quelqu'un de très compétiteur. Et quand je fais les choses, je les fais à fond. Et je suis arrivé à un moment où je faisais les championnats de France en foot, championnats de France en kart. J'étais plus dans le kart, donc je ratais des entraînements de foot. Et un dimanche, je suis arrivé, mon coach m'a dit... Tu vas trop sur les pistes de cartes. Ce week-end, tu joues dans l'équipe 2. Moi, je dis, mais l'équipe 2, ça m'intéresse pas du tout, en fait. C'est soit je le fais pour gagner, être avec les meilleurs. Et en fait, ça a été un déclic. Et à partir de ce jour-là, j'ai dit, je sais que c'est deux sports que j'adore, mais ma vraie passion, c'est la Formule 1.
Mais tu as eu l'occasion de faire du foot il y a quelques mois avec l'UNICEF au stade Vélodrome. On a eu l'occasion de voir ça.
Ouais, j'ai marqué au Vélodrome. J'avoue que ça, ça a été quand même un rêve de gosse. Et ça a été quelque chose de fort. Hein.
Ouais, c'était pour récolter des fonds, etc. Enfin,
c'est
bref,
ça.
Ouais. C'était assez marrant à voir comme image. Et il y a quand même un truc sur lequel je voulais revenir, parce que quand on parle du fait d'avoir un engagement très tôt comme ça et une passion très tôt, on le disait, ça vient aussi avec des formes de sacrifice et d'engagement importants. Et toute personne qui très tôt va s'engager comme ça dans une voie, moi je vois, tu vois, avec plein de potes youtubeurs qui aujourd'hui font le truc de façon assez massive, on en parlait tout à l'heure, qui en fait ont dû faire des sacrifices assez tôt et avoir une vie pas normale, disons, pour un jeune. Toi, comment tu l'as vécu, et même aujourd'hui, comment tu le vis? Tu vois, t'as 26 ans, on a quasiment le même âge, t'es très jeune, t'as forcément un quotidien qui est différent.
Ouais.
Est-ce que tu as l'impression d'avoir fait des sacrifices que tu regrettes parfois? Est-ce que t'as aucun regret là-dessus? Et comment est-ce que tu vis typiquement une vie sociale différente, des choses différentes, quoi?
Ouais, c'est franchement une très bonne question. Et je regrette rien, parce que ça a toujours été mon rêve. Et pour moi, j'ai la chance de vivre de ma passion, de poursuivre mes rêves. Et je changerai ça pour rien au monde. Bien sûr, ça vient avec des avantages et des inconvénients. C'est venu avec des sacrifices quand j'étais plus jeune. Heureusement, on va dire que ça a fonctionné. Mais c'est vrai que j'ai pas du tout eu une, on va dire, une enfance similaire à celle de mes amis. Je suis parti chez moi à l'âge de 13 ans pour partir dans un sport-études au Mans. Donc, je vivais plus chez mes parents, dans le confort un peu familial. Les après-midi avec les amis, ça a tout de suite été sport-études. Donc, énormément de sport. C'est un sport qui prend énormément de temps. Donc, depuis l'âge de 11 ans, quand j'ai commencé à faire les championnats de France, championnats d'Europe, championnats du monde, je ratais environ 3-4 mois d'école et de temps scolaire à l'année. Et j'étais sans cesse, en fait, en essayant de rattraper jusqu'à temps que la fédération crée justement cette école privée où là, j'avais des cours juste pour moi. Et ça a pris, on va dire, ça a pris beaucoup de temps. J'étais obligé toujours d'investir soit pour le sport, soit pour les études, où je suis allé jusqu'à... J'ai passé mon bac ES avant de partir en Angleterre pour Red Bull. Et on va dire que cette vie sociale, elle a été un peu diminuée. Et il y a certaines choses que je n'ai pas pu vivre comparées à d'autres amis. Mais encore, je ne suis pas à plaindre parce que j'ai la chance d'avoir des amis vraiment en or. J'ai toujours gardé cette fondation de... des premiers copains que j'ai eu dans ma ville.
Et ils pour sont moi, restés, qui sont encore là.
Ils sont restés, ouais. Qui me connaissent depuis je faisais 1m10 et qui me voient aujourd'hui, qui ont toujours compris le sens de ma vie, qui m'ont toujours soutenu dans ces projets-là. Et pour moi, c'est ultra important d'avoir mes moments en F1 où je suis concentré à 100% et voilà, je suis le genre de personne à rien compromettre quand il s'agit de ma vie professionnelle. Mais par contre, j'ai besoin de ces moments-là où de temps en temps, j'ai besoin de complètement déconnecter et d'être normal, d'être Pierre, 26 ans, avec mes potes et ma famille et profiter des moments normaux comme tout le monde.
Et je te propose d'avancer du coup, parce que là, on a beaucoup parlé de la première, première phase. Ça a du coup avancé, parce que ça commence avec le karting. Et puis après, c'est d'ailleurs un parcours qu'ont quasiment tous les pilotes. Ça progresse au fur et à mesure. Tu ne rentres pas comme ça en F1 du jour au lendemain, loin de là. Il y a eu le passage en Formule 4, Formule Renault. Il y a eu ensuite du coup le GP2 qui était
Formule 2.
Et puis du coup, tu as fini par passer en F1. Ça ne s'est pas fait d'ailleurs d'un coup.
Ouais.
Ça s'est fait un peu en deux temps. Ça s'est fait un peu en deux temps parce que tu remportes ce championnat de Formule 2, mais tu n'accèdes pas directement à la F1. C'est ce genre de décalage et de frustration qui peut aussi arriver dans certains cas de ne pas accéder directement à ce que tu imagines ou ce que tu espères.
Complètement. C'est la manière dont moi je l'ai un peu vécu. C'est comme si, on va faire un parallèle avec le foot, le vainqueur de la Ligue 2, on leur dit bon, on va pas monter tout de suite en Ligue 1, on va voir. C'est un sport qui est très particulier parce qu'il y a, bien sûr, c'est un business avant tout. Il y a des grosses marques, Ferrari, Mercedes, Red Bull. Et on va dire qu'il y a énormément d'argent dans ce sport. Quand il y a énormément d'argent, il y a toujours énormément de politique aussi. Les places sont très chères.
Parce qu'il y en a 20 pour tout le monde. D'ailleurs, je précise, l'échange, forcément, parfois, je vais rappeler certains trucs pour que tout le monde suive et comprenne, même si vous ne connaissez pas la F1, il y a 20 pilotes
dans le monde,
10 écuries.
10 écuries, 20 places dans le monde, le plus jeune à 20 ans, le plus vieux à 42. Donc, quand on c'est assez large et les places sont très chères. Donc, chaque année, de temps en temps, ça ne se libère pas. Il y a des pilotes qui sont payants, qui arrivent en apportant de l'argent. Bien sûr qu'ils sont très bons, qui sont très talentueux. Mais de temps en temps, il y a des pilotes qui sont plus talentueux, mais sans soutien, qui malheureusement n'arrivent pas à percer. Et moi, je me suis retrouvé un peu dans une situation bancale où j'ai gagné mon championnat, où il y avait tout qui était prêt pour monter, mais il n'y avait pas de place libérée. Donc j'ai dû partir au Japon. J'ai fait la F1 japonaise, entre guillemets, en Asie, où j'ai fini deuxième du championnat là-bas. Ça a été une histoire assez folle parce que j'ai pas pu me battre pour le championnat. J'ai fini un demi-point derrière le vainqueur parce qu'à la dernière course, on a eu un typhon qui est arrivé sur le circuit, donc la course a été annulée. Et de là, je suis passé en Formule 1. Mais c'est vrai que c'est un sport où il n'y a pas que la performance qui compte, et de temps en temps, ça peut être un peu frustrant.
Et comment tu as appris du coup ce passage, parce que ça s'est fait assez rapidement entre le moment de l'annonce et l'arrivée du coup en Formule 1, pour juste expliquer un peu ce timing et ce truc-là. Donc tu as une écurie Toro Rosso qui, pour faire vraiment très simple, est un peu la petite sœur de l'écurie Red Bull. Comment s'est fait du coup ce passage en F1 très concrètement, parce que tu étais au Japon à ce moment-là, tu reçois
C'est ça, donc en fait, j'ai signé avec Red Bull en 2014, donc maintenant ça va faire, c'est ma plus longue relation à ce jour. Et oui, en fait, du coup, j'étais troisième pilote pour l'écurie mère, donc pour Red Bull Racing. J'allais en Malaisie comme chaque week-end de course, au cas où quand on est troisième pilote, on est entre guillemets un peu remplaçant s'il y a un problème sur un des deux pilotes, on est le pilote qui choisissent pour le remplacer. Et en atterrissant le lundi en Malaisie, j'ai reçu un coup de fil pour me dire « Coup de pierre, ce week-end, tu vas rouler chez Toro Rosso. On a décidé de te mettre, au vu de tes résultats, de ta saison, ça se passe très bien. On a envie de te donner la chance sur les 5 dernières courses de la saison. » Et c'était quelque chose… Bien sûr, au fond de moi, je savais profondément à l'intérieur de moi que ça allait arriver. Mais pas forcément à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est des émotions qui sont fortes parce que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, beaucoup de personnes qui m'ont aidé et soutenu pour en arriver jusqu'à la Formule 1. Et c'était quelque chose où j'avais fait le maximum, j'ai eu les résultats et il manquait cette opportunité. Et elle est arrivée fin 2017.
Ça arrive, donc là c'est l'arrivée en Formule 1 à ce moment-là, en 2017. Qu'est-ce que ça fait de passer de la Formule 2 à là concourir avec des gens que tu suivais forcément dans certains, parce que ce que tu dis, hein, c'est que les carrières peuvent durer longtemps, donc il y en a forcément que tu suivais quand tu étais à un niveau bien moins important. Qu'est-ce que ça fait de passer à une autre échelle comme ça du jour au lendemain Tu t'y attends, tu t'y prépares
Oui, tu t'y prépares. Après, la première course, ça reste un moment où... déjà, c'est juste l'arrivée dans le paddock. On passe dans un autre univers. Donc c'est en termes de surtout médiatique, la charge de travail qu'il y a à faire. Donc une écurie de F1, pour donner une ordre d'idée, c'est à peu près 1000 personnes. Ça monte jusqu'à 2000 chez Mercedes et Ferrari, seulement pour construire deux voitures. Donc on a...
Ça fait du monde pour...
Voilà, les responsabilités, elles sont quand même importantes quand on part sur la piste, parce qu'il y a du travail, il y a énormément de travail pour faire que la voiture soit performante et qu'on puisse rouler. Et donc, c'est vrai qu'en arrivant, c'est un rêve de gosse. Mais une fois qu'on est là-bas, il n'y a pas vraiment le temps pour les émotions. On est tout de suite concentré sur « je suis là pour performer, je suis là pour être rapide, pour apporter le meilleur résultat à l'écurie ». Et donc, on essaye de jouer un peu entre les émotions, parce que forcément, moi, je suis quelqu'un d'émotionnel, je vis par les émotions, c'est ma manière de vivre. Donc forcément, il y en avait beaucoup ce jour-là, et le jour du premier Grand Prix, quand on est à côté de Sébastien Vettel, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, qui a commencé la F1 quand j'avais 5-6 ans, c'est des choses qui sont particulières. Et puis une fois que les feux s'éteignent, en fait, il n'y a plus de Kimi, il n'y a plus de Lewis, il n'y a plus de Sébastien. Tout le monde est on est là pour essayer de dépasser tout le monde et d'obtenir le meilleur résultat possible.
Et comment d'ailleurs tu vis cette pression-là, d'ailleurs, sur cette première course, mais même sur les suivantes? C'est forcément une pression importante. T'es suivi là-dessus, enfin, même les pilotes en général sont suivis pour, d'un point de vue psychologique, arriver à gérer ça, leurs émotions, et le jour de la course, canaliser tout ça pour s'en sortir? Parce qu'il y a quand même une notion de pression importante à tout point de vue médiatique, par rapport à la course en tant que telle.
C'est marrant, mais dans un sens, ça n'a pas été le moment avec le plus de pression dans ma carrière, parce que c'est quelque chose que j'avais tellement imaginé, j'y avais pensé tellement de fois, que j'étais mentalement prêt à vivre ce moment-là. Et pour moi, ce qui a été plus dur à gérer, c'était essayer qu'on me donne la chance. Parce que je sais qu'il n'y a pas que la performance qui compte. Il y a d'autres facteurs. Temps, il faut arriver à avoir un bon timing et que les places soient libres. Facteur argent, malheureusement. Politique. Et il faut réussir à mixer tout ça pour avoir sa chance. Et en fait, c'est des choses que je ne contrôle pas. Moi, je contrôle ma performance, mais le reste, malheureusement, je ne le contrôle pas. Et je suis quelqu'un qui n'aime pas ne pas avoir les cartes en main. Et pour moi, ça a créé du stress avant la Formule 1. Et au moment où je suis arrivé, je me suis dit, maintenant, j'ai ma chance. Pierre, fais ce que tu sais faire et ça va bien
avec
se passer.
Toujours l'esprit de compétition, de toute façon, ouais, dont on parlait, qui était bien présent.
Exactement.
Et d'ailleurs, je pense que ça vaut le coup de se pencher quelques instants sur concrètement, qu'est-ce que c'est une course de Formule 1, je veux dire, d'un point de vue d'un pilote. Pour ceux qui regardent les courses chaque week-end, ils connaissent un peu le truc. Moi, je connais aussi à force de regarder. Mais pour bien comprendre des gens qui connaissent peut-être moins la Formule 1, physiquement, à tout point de vue, quand tu fais une course de Formule 1, qu'est-ce que tu ressens? À quel point c'est épuisant en termes de température, en termes de pression, en termes de ce que tu te prends aussi à tout point de vue? Qu'est-ce que c'est en termes de ressenti de conduire une voiture de Formule 1?
C'est quelque chose d'extrêmement intense et d'un côté très difficile à expliquer ou à comparer pour la plupart des gens, parce que je fais toujours une comparaison avec le foot ou le tennis par exemple. Quand on voit Roger Federer jouer au tennis, on va sur un court de tennis, on achète sa même raquette, les mêmes chaussures, les mêmes balles, on essaye de jouer comme lui, on n'y arrive pas, mais on comprend que ce qu'il fait, c'est hors norme. Quand on voit Neymar jouer au foot, on peut prendre le même ballon, les mêmes chaussures, et pourtant on n'y arrive pas. Et quand on essaye de jouer 90 minutes, on se rend compte réellement de ce que c'est ce sport-là. Nous, malheureusement, demain, si toi tu sors et que tu vas au Castellet pour le Grand Prix de France et que tu dis laissez-moi monter dans l'AlphaTauri, je vais aller faire 3-4 tours.
Peut-être que je peux être le remplaçant de l'AlphaTauri, on ne sait jamais.
On ne sait jamais, on peut toujours essayer. Mais c'est quelque chose qui, malheureusement, les gens de tous les jours ne peuvent pas ressentir. Et il n'y a pas de comparaison possible, parce que même aujourd'hui, la voiture, on va dire, la plus puissante, que ce soit des Ferrari ou Lamborghini ou j'en sais, tous ces genres de voitures, elles sont à des années-lumière plus lentes que ce qu'on fait. Donc, on a des voitures qui sont c'est des roquettes sur quatre roues. On va à 350, 370 km/h. Et la sensation dans les virages aux vitesses auxquelles on va, on a énormément des forces extérieures qui s'appliquent sur notre corps. Tout ce qui est sur la globalité de notre corps, surtout sur le cou, et ce qui s'appelle des G. On a 5 G et demi au freinage dans les virages, donc c'est énormément de force à gérer, tout ça avec une combinaison, un casque, donc qui fait à peu près 50-55 degrés dans la voiture, et on fait la plupart du tour en apnée, parce qu'avec ces forces là on peut pas respirer. Donc on a un rythme cardiaque qui est aux alentours de 165-170 pendant 1h30-2h à ces températures là Et ça fait qu'on perd, en fonction des Grands Prix, entre 2 à 3 kilos. Et tout ça en roulant à 350. Donc, la concentration, on ne peut pas la perdre.
Il n'y a pas de relâchement, vas-y, je fais une petite pause.
Non, il n'y a pas. C'est chaque millième de seconde et compte.
Et même, d'ailleurs, on pourrait penser, même au pit stop, c'est un... Mais non, même au pit stop, tu n'as pas de repos, en fait.
Non,
parce que
ça va tellement vite.
C'est ça, tu as 2-3 secondes.
Quand on fait le changement de roue, c'est 2 secondes. C'est quelque chose que j'apprécie, c'est le seul moment vraiment dans ma vie où j'ai aucune distraction extérieure. J'ai pas un moment où j'ai le temps ou la présence d'esprit de penser à ce qu'on disait, est-ce que j'ai fermé ma maison, mon pote, est-ce que je lui ai répondu ou qu'est-ce que je vais faire à manger le week-end prochain. Ouais. On est dans un esprit tellement de concentration extrême qu'on est vraiment concentré sur soi-même. Et c'est un état d'esprit qui est juste incroyable niveau mental.
C'est vrai que je trouve ça bien aussi d'en parler, parce que moi, je sais que quand j'étais petit, je voyais, tu as des proches, je regardais la F1. Et franchement, à la télé, je trouve que ça paraît pas aussi impressionnant que ça ne l'est réellement. Tu vois. Un truc, tu vois une voiture passer, t'as pas de notion de la vitesse par rapport aux distances, aux accélérations. Enfin, tu dois avoir le même truc. Je trouve qu'il y a un décalage entre ce que tu vois et ce que vous ressentez en tant que
complètement.
Pilote, quoi.
Complètement. Et c'est bon, après, c'est des choses à travailler en termes de caméra, en termes de.
C'est cool les nouveautés qu'ils ont là de caméra à l'intérieur maintenant de certains casques.
Maintenant, les gens peuvent se rendre compte. Il y a certaines caméras où on se rend vraiment compte de la vitesse. Et... J'espère, honnêtement, j'espère qu'un jour on arrivera à faire des voitures qui nous permettent de faire ressentir aux gens ce qu'on ressent. Parce que
pour sentir des jets dans la gueule.
Non, mais même en expliquant, en essayant de mettre des mots sur tout ce qu'on ressent, et même physiquement. Ouais. C'est un sport qui est beaucoup plus intense que ce que les gens peuvent penser. Et puis après, il ne faut pas oublier que c'est aussi 23 courses, c'est 23 courses dans le monde entier, c'est 100 vols à l'année, on change de continent plus ou moins toutes les deux semaines, on prend un avion tous les trois jours. C'est un style de vie qui est particulier. Moi, c'est ce que voilà, j'ai toujours rêvé de ça. Et c'est, pour moi, j'appelle même si c'est mon travail, je dirais même pas, j'appellerais même pas ça un travail, parce que c'est tellement de plaisir et je vis pour la compétition. Mais c'est vrai que c'est un sport extrême.
Et particulier. Si on avance un peu, un autre point de bascule important, ça a été en l'occurrence une épreuve qui a été surmontée, enfin une première épreuve, en l'occurrence sportive, celle-ci, ça a été, pour comprendre un peu ta carrière, tu as été chez Toro Rosso,
ouais. Puis
tu es passé chez Red Bull, donc, qui est, pareil pour ceux qui ne connaissent pas, la grande écurie aujourd'hui avec Mercedes. Donc là, tu étais aux côtés de Max Verstappen, qui cette année, il y a quelques mois, a été sacré champion du monde. Et après une première partie de saison qui est jugée décevante par l'écurie, tu retournes chez Toro Rosso, tu es remplacé par Alex Albon du côté de Red Bull. C'est forcément une décision qui est très dure pour toi, et on avait beaucoup parlé à l'époque. Comment est-ce qu'on rebondit après un échec comme celui-ci, et qu'est-ce qui te fait tenir à ce moment-là et rebondir ?
Ce qui me fait tenir, c'est ma rage de gagner. J'ai toujours été très compétiteur. Je suis quelqu'un qui a les idées très claires en termes d'objectifs et ce que je veux atteindre. Et ça a été aussi le fait d'avoir ressenti qu'on ne m'ait pas forcément donné toutes les armes pour montrer de quoi j'étais capable.
Ce qui est d'autant plus frustrant, du coup.
Ce qui a été très frustrant, parce que ça a été, bien sûr, une opportunité dont j'ai toujours rêvé. Hein. 23 ans chez Red Bull, tout était parfait. Mais malheureusement, le timing et la position dans laquelle je suis arrivé là-bas ne m'a pas forcément permis de montrer ce dont j'étais capable. Et c'est vrai que pour moi, ça a été difficile. Je suis compétiteur, hein. je suis là pour gagner. Je me réveille tous les matins en essayant de m'améliorer, en essayant de faire le maximum pour ma carrière et pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Et je me suis retrouvé dans une situation qui a été compliquée. Donc sans aller trop dans le détail, et puis maintenant, ça commence à remonter, 2019. Donc, il s'est passé beaucoup de choses depuis. Mais c'est vrai que ça a été un très gros challenge. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que je me remettrais un peu jamais de cette décision. Et le jour où elle a été prise, moi, je m'en rappellerai toute ma vie, hein, parce que ça a été forcément très dur et une grosse déception. Mais j'étais tout de suite tourné sur une nouvelle page. Et je savais qu'avec Toro Rosso, j'aurais les moyens de prouver ce dont je suis capable.
Et, parce qu'il faut aussi expliquer, pour ceux qui ne connaissent toujours pas forcément, que Toro Rosso, c'est donc la petite sœur, en quelque sorte, de Red Bull. Et ce que ça veut dire, c'est qu'aussi, la voiture est de fait, en général, moins performante que celle de...
Ouais, pour faire simple, c'est vrai que c'est bien de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent
la F1. C'est pas juste un changement d'équipe en mode change de club, mais c'est la même voiture.
Voilà. Oui, c'est vrai que c'est important de le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent pas compte. Malheureusement, dans notre sport, la voiture fait la majorité du résultat.
Non, c'est la majorité.
Ah oui, ouais. C'est aujourd'hui, même si Lewis est le pilote sur le meilleur de toute l'histoire de la Formule 1, aujourd'hui, Lewis, dans une Williams ou dans une Haas, il finirait dernier. Quand
c'est pas champion du monde.
Ah non, mais c'est même pas qu'il serait 3e ou 5e, c'est qu'il serait en 18e position ou 16e position, comme ce qu'on peut voir actuellement. Donc en fait, il y a un énorme fossé entre la performance des voitures qui jouent aux avant-postes, donc entre la Mercedes ou la Haas, et on parle de secondes de temps en temps. C'est pas quelques centièmes, c'est pas quelques dixièmes de temps en temps, c'est plus que ça. Donc
ça joue beaucoup sur une course. C'est pareil, quelques secondes, ça peut paraître peu pour des gens qui connaissent pas, c'est immense.
Oui, pour nous, ça se joue à des millièmes, des centièmes. Et donc, on part pas du tout à armes égales au début d'une qualif ou au début d'un Grand Prix. Et c'est comme si on commençait Roland-Garros en donnant 2-7 à l'adversaire avant même que le match ait commencé. C'est sûr que de temps en temps, c'est un petit peu frustrant. Mais c'est pour ça que le but dans ce sport, c'est d'obtenir des résultats qui sont, on va dire, meilleur presque que la voiture pourrait obtenir pour se démarquer et avoir l'opportunité d'être justement d'avoir une voiture qui a la performance de gagner.
Et c'est là au passage aussi où dans ton cas typiquement donc t'es chez AlphaTauri mais en fait ouais. C'est Toro Rosso qui a changé de nom aujourd'hui. T'as fait là une grosse saison avec plus de 100 points et t'es retrouvé à faire des week-ends où t'étais, alors t'as eu un peu de job mais aussi tu pouvais être sixième notamment ouais. Pas mal de fois cette année. Sixième, on peut se dire, pour ceux qui ne connaissent pas, ouais. c'est pas grand. Bah non, t'es ouais. Même pas sur le podium, machin. Ouais. Mais en fait, c'était une grosse performance parce ouais. Que du fait de ta situation, de la voiture, machin, et des autres écuries, c'est une grosse perf qui montre que
c'est sûr. On va dire, on finit sixième au championnat constructeur. Donc sixième, ça voudrait dire qu'on se bagarre aux alentours de la dixième place en termes de pure performance. Et on a réussi à faire des choses bien mieux que ça et assez régulièrement sur la saison. Donc, pour moi, c'est mon objectif aujourd'hui, avec la voiture que j'ai, de montrer ce genre de résultat, de montrer que quand on me donne les moyens de, on va dire, les bonnes cartes en main, je suis capable de ouais, sortir des très gros résultats pour, voilà. Cette année, je reste avec AlphaTauri, mais pour la suite, être dans une voiture qui me permet de jouer la victoire tous les week-ends.
Très bien. On aura hâte de voir tout ça. On te le souhaite très, très clairement. On suivra ça. On vient de le voir. On en a parlé un petit peu il y a quelques minutes, mais la Formule 1, c'est un sport qui est aussi extrêmement... Enfin, qui présente des dangers, des risques, parce que... On l'a dit, c'est des vitesses importantes, c'est des prises de risques parfois, et c'est une concentration aussi maximale qu'il faut avoir à tout point de vue. Et parfois, il peut y avoir des accidents qui peuvent être fatals. Et ça me semble essentiel d'en parler là, parce que c'est quelque chose, toi, qui t'a marqué. C'est un point de bascule aussi important, c'est l'accident de ton ami Antoine Hubert, qui était du coup lui-même pilote en Formule 2. Et le 31 août 2019, sur le circuit de Spa, il est victime d'un accident, d'un grave accident qui va faire qu'il va décéder de ses blessures. Il a 22 ans à ce moment-là. Toi, c'est un ami depuis longtemps. Vous avez grandi ensemble, on va dire, sur ces circuits. Ça a été forcément un moment très dur. T'en as beaucoup parlé. J'ai eu l'occasion de lire notamment un long article que t'avais fait pour en parler, que j'avais trouvé très, très émouvant et que j'invite d'ailleurs tout le monde à lire. Je serais curieux de savoir, parce que même pour tout le monde en soi... faire un deuil comme ça, c'est jamais facile, je pense. Toi, comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as réussi à faire ce deuil? Parce que c'est forcément quelque chose qui n'est pas évident, y compris en pleine saison. Comment est-ce que tu as fait ça?
Ça a été, on va dire que je suis passé à travers ça a été un cauchemar. Ça a été, y a eu tout est arrivé en même temps, en fait. Il y a eu la décision de Red Bull sportive, d'arrêter ouais. sportive. D'un point de vue professionnel, ça a été très très dur. Je suis arrivé chez Toro Rosso et pour la première course à Spa, c'est toutes les caméras, tout sur moi bien sûr et voilà beaucoup de jugements, etc. Et dès cette première course, on se retrouve le samedi, j'ai encore les images en tête où il y a cet accident. Au deuxième tour, donc à Spa-Francorchamps, le Grand Prix en Belgique, dans un des virages les plus mythiques, mais un des plus rapides. Et sur le moment, je vois l'accident et je ne vois pas qui exactement est impliqué. Mais je me rappelle, je dis à ma presse-officeur qui était à côté de moi, je dis, là, il s'est passé un truc grave. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais c'est très, très grave. Et j'essaye d'avoir les informations le plus rapidement possible. Je me dis que c'est Antoine qui est impliqué. Antoine, que je connais depuis que j'ai 8 ans. Antoine, c'est la personne, quand je suis parti de chez moi à 13 ans, pour ce sport-études qui venait d'être créé, on était trois pilotes à l'époque à avoir pris cette décision. C'était Antoine qui faisait partie de ces trois-là. On a dormi dans la même chambre, le même dortoir, de 13 à 18 ans. On s'entraînait tous les jours ensemble. Ça a été une source de motivation, l'un et l'autre, pour se pousser vers le haut. Et on n'en serait jamais arrivé là sans l'un sans l'autre. Et je suis sorti du meeting d'après Calif, je suis descendu et là j'ai vu mes parents effondrés, ma copine effondrée, tout le monde dans le paddock effondré. Et j'ai compris tout de suite ce qui s'était passé et j'arrivais pas à le croire. Et même même aujourd'hui, j'ai du mal encore à y croire. Et c'est malheureusement la réalité de notre sport. C'est, de temps en temps, on l'oublie et c'est quelque chose auquel, honnêtement, je pense jamais. Mais pour le sport automobile français, on a perdu deux énormes champions, Jules Bianchi, qu'on a perdu au Grand Prix du Japon en F1, et Antoine quelques années plus tard. Et ça a été vraiment horrible et un choc de voir que, oui, c'est des choses qui arrivent encore, même si la sécurité augmente dans notre sport. C'est des choses, quand on roule à ces vitesses-là, à 350 km/h, en fait, on ne se rend pas compte qu'on peut... La vitesse... peut nous tuer à 80, 100, 120, 150, c'est malheureusement un risque. Et quand on fait ce sport-là, on l'accepte. Quand on monte dans la voiture, on sait que potentiellement, c'est peut-être... Voilà, on le choisit pas. Mais ça m'a fait prendre du recul sur ma vie. En général, ça a été extrêmement dur parce que ça a été un ami très, très proche. Et malheureusement, j'en ai perdu quelques-uns sur ces dernières années. Et ça m'a fait prendre du recul juste sur la vie en général, l'importance que c'est de profiter de tous les moments, de profiter des personnes qui sont chères, de dire à ces personnes-là aussi qu'elles sont importantes quand on a l'occasion de leur dire, parce que forcément on a beaucoup de regrets une fois que ce genre de choses se passent. Ouais, je me rappelle encore la dernière fois où je lui ai dit au revoir, la dernière soirée qu'on a passée ensemble, et je pense qu'on... On ne se rend pas forcément compte de la chance qu'on a de temps en temps de vivre et de la réalité des choses, que malheureusement, tout peut s'arrêter extrêmement rapidement et il faut en être conscient.
Ouais, c'est vrai que c'est un message qui est aussi important, parce que toi, dans ton cas, ça a dû être particulièrement difficile de faire ce deuil-là, parce que vous aviez, au-delà d'être très proche, vous faites le même...
C'est la même vie.
La même vie, les mêmes sacrifices.
Ses parents... j'ai été chez lui, je sais les sacrifices que mes parents ont fait, les siens l'ont fait aussi. C'est un projet familial et en soi, la famille repose un petit peu sur nous, quoi. On est le pilier de nos familles parce qu'ils ont tellement investi sur nous que quand ça s'écroule, c'est dramatique. Et c'est vrai que ça a été une partie, on va dire, dans ma vie, dans ma carrière, qui a été où j'ai vraiment senti, là, je suis dans une situation où là, il va falloir être très fort et mentalement et rebondir. Et après, ça a été aussi, j'ai réussi à le tourner dans une sorte de force à l'intérieur de moi pour essayer de dégager encore plus que ce que j'arrivais et de me surmonter encore plus dans ce que je faisais.
Et avec des enseignements aussi que tu dis là, de profiter le plus possible de chaque instant, quel que soit d'ailleurs, on n'est pas tous pilotes de Formule 1, mais quelle que soit notre situation, notre vie et tout, et dire à ceux qu'on aime, qu'on les aime. Et c'est vrai que c'est toujours des choses qui peuvent parfois paraître un peu basiques ou logiques ou quoi, mais c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est important quand même à dire pour les raisons qu'on a dit là.
Je suis entièrement d'accord et je pense que c'est trop rarement mentionné. Et de temps en temps, on ne le sent pas, mais en fait, qu'est-ce que ça peut faire de mal de dire à quelqu'un qu'on l'aime ou qu'on l'apprécie ou qu'elle a énormément d'importance pour nous dans nos vies. Je pense que c'est des choses qui ne coûtent pas cher et qui font plaisir.
Ouais,
qui font
ça,
plaisir à entendre, que ça soit... Ou même qui font plaisir à dire, parce que je pense qu'on a tous des personnes qui sont plus importantes que d'autres dans nos vies. Et typiquement, quand il se passe ce genre de situation, je pense que la vision des choses et l'approche sur la vie en général, elle évolue et elle fait grandir. Malheureusement, c'est triste de passer par ces moments-là. Mais il faut essayer d'en tirer les meilleures leçons et d'essayer de continuer.
Continuer à avancer.
Voilà, exactement.
Et si on revient du coup avec un dernier point de bascule que je voulais voir, qui en l'occurrence est plus heureux, qui est d'ailleurs dans ce décor. Alors pour ceux qui écoutent en podcast, peut-être ils verront pas, mais c'est vrai que c'est là depuis le début, avant même qu'on te reçoive et qu'on te contacte. C'est une belle une, la une de l'équipe du coup d'un jour marquant pour toi. Et c'est vrai que c'est pour ça que je trouvais ça cool de pouvoir t'inviter, parce que bah, je te suis forcément ensuite depuis quelques temps, et t'as eu forcément plein de moments marquants dans ta carrière, qui n'est d'ailleurs qu'au début, hein, c'est loin d'être fini. Et ça a été forcément ce moment que beaucoup connaissent, d'ailleurs même chez les suis pas forcément la Formule 1, cette victoire, première victoire en Formule 1. Ça s'est passé le 6 septembre 2020, tu deviens le 13e pilote français et le plus jeune à s'imposer en Formule 1. Ça faisait 24 ans que c'était pas arrivé, et forcément c'est quelque chose de gros. Ça s'est passé au Grand Prix d'Italie. Est-ce que tu peux juste nous dire en quelques mots, même si tu en as beaucoup parlé forcément, donc on va pas forcément revenir sur tout, y compris sur les détails de la course, qui c'était quand même assez particulière à tout point de vue, parce que ça a commencé avec un drapeau jaune qui a entraîné plein de choses, des décisions aussi stratégiques qui ont fait qu'une sorte de coup de poker qui a bien marché. Ce que je veux savoir, c'est que ça a été pour toi forcément, je pense, peut-être le plus gros moment de ta carrière. Je pense que c'est assez évident. Quand on parle là dans ces formats là d'échanges avec d'autres personnalités dans d'autres domaines, on a genre tu as des personnalités qui sont Iris Mittenard, Miss Univers, on a eu des artistes ou autres. Parfois, on nous explique que ces moments au final de marquants, chacun les vit différemment. Il y en a qui s'en souviennent de tout, et c'est un peu en mode au contraire, c'est un film qu'ils ont bien. Ouais. Il y en a une sorte de blackout tellement ça a été une émotion très forte. Toi, comment t'as vécu ce moment?
Je me rappelle de tout. J'ai toutes les images, les émotions en tête, les sensations. J'arrive à sentir ce que je ressentais sur la course en général. Et il faut savoir que en Malaisie, quand j'ai commencé ma première Grand Prix, mon premier Grand Prix en F1, c'est pour donner une sorte d'idée de la pression et un peu responsabilité aussi. Que j'avais en tant que Français, et je suis arrivé en 2017, la dernière victoire, elle était en 96, donc ça faisait 21 ans. Et la première question qu'on m'a posée à la conférence de presse, c'est « Est-ce que vous allez être le prochain vainqueur de Grand Prix français en Formule 1 ?» Et donc il y avait une attente et un besoin, parce qu'on a cette culture de la Formule 1, on a eu des légendes, on a eu des champions... comme Alain Prost, quatre fois champion du monde de Formule 1, et on a eu un espèce de creux où on n'a pas eu la chance d'avoir les pilotes dans les bonnes voitures pour forcément gagner. Et donc c'est une sorte de pression, et pour moi d'avoir gagné ce Grand Prix, bien sûr, bon, ça représente un rêve un accomplissement et un rêve de gosse, et tout le travail et les sacrifices, et surtout la manière dont ça a été fait. Avec une voiture qui... j'étais pas chez Red Bull, donc personne s'attendait, entre guillemets, à ce que je gagne avec AlphaTauri, ce qui a rendu les choses encore plus fortes. Mais 24 ans après, pour un Français, ça a été vraiment une fierté de pouvoir entendre la Marseillaise sur ce podium et de voir autant de sourires et de partager autant d'émotions pour un moment aussi fort.
Et ce sera peut-être d'ailleurs une dernière question. Ça change, toi, à partir du moment où tu as une victoire comme ça, ça change ton approche. Enfin, on l'a compris, tu as un côté très compétitif, tu as son de base, mais est-ce que ça te fait peut-être comprendre que même dans certaines situations, avec une AlphaTauri, tu peux remporter un Grand Prix, être sur le podium, voire remporter un Grand Prix? Ça change un peu en termes de mentalité le truc de remporter un Grand Prix, ou au final, toi, c'était déjà présent cette idée que de toute façon, tu pouvais faire des grandes choses.
C'était déjà présent, mais après, comme je l'ai expliqué, c'est un sport où généralement 99% des grands prix sont remportés par Mercedes ou Red Bull ou Ferrari, et les autres écuries, elles n'ont pas forcément leur chance du fait qu'il y a des différences de performance entre les voitures. Donc, on ne sait jamais trop quand est-ce que ça va arriver. Après, j'ai toujours eu cette approche de dire. Chaque week-end, chaque fois que je monte dans la voiture, de toute façon, je me donnerai à 110%. Ouais. Et si un jour l'opportunité, elle est là, je sais que je la saisirai. Je ne la laisserai pas passer. Et ça a été cette mentalité que j'ai eue pendant la course, parce qu'il y a eu énormément de pression avec Carlos Sainz qui était derrière et qui était proche. Et je savais personnellement, c'était mon jour avec cette voiture, avec l'AlphaTauri. Et il y avait zéro chance que je laisse passer cette opportunité de victoire.
Et ça s'est fait.
Ça a été beaucoup de pression. Mais une fois qu'on goûte à cette, ouais. on va dire, à ses émotions, ça devient addictif. Et pour moi, c'est pour ça que c'est clair. Aujourd'hui, j'en suis à un stade où on a fait une excellente saison l'année dernière. J'ai encore cette saison avec AlphaTauri où ça me tient vraiment à cœur de continuer à pousser cette équipe au plus haut niveau. Et puis après, il va falloir clairement regarder les opportunités pour être... j'ai envie de gagner en F1, j'ai envie d'être champion du monde.
Ça implique de repasser à un moment sur une écurie...
Qui a la voiture pour pouvoir gagner des Grands Prix chaque week-end.
On suivra ça et j'ai très hâte de voir tout ça. Pierre, c'était trop cool de t'avoir.
Ouais.
Franchement,
merci à toi.
Non, c'est cool, franchement, ça fait plaisir. Et c'est vrai que ça faisait longtemps que je disais que ce serait cool de te recevoir et de pouvoir discuter dans ce cadre-là. Et donc, merci d'avoir accepté. Franchement, c'était...
Pas de souci.
En cette période qui est forcément de préparation de la saison et tout.
Ça va reprendre, donc mettez-vous dans votre canapé devant les écrans mi-mars, ça va reprendre, ça va être une belle saison, en plus 23 courses, donc il y a le Grand Prix de France aussi mi-juillet, donc j'espère avoir
beaucoup de monde là-bas. Peut-être qu'on fera un reportage, on verra.
Carrément.
Coulis, ça sera très sympa. Et puis, non, c'est cool parce que vraiment, ta mentalité aussi, c'est pour ça que je trouve ça... c'est que, enfin, on le ressent d'ailleurs, je pense, via ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce que tu peux dire lors d'interviews et tout, mais t'as une vraie mentalité, des enseignements, je pense, qui peuvent être utiles pour tout le monde. Et c'est vrai que c'est trop bien que tu puisses discuter de ça et prendre le temps.
Ça fait plaisir.
Franchement, merci encore à toi pour ton temps. Et puis à bientôt, c'était chambé.
À la prochaine.
Voilà donc pour cet échange, j'espère qu'il vous a intéressé. Pour en savoir plus sur Mashup, toutes les informations sont directement en description. N'hésitez pas d'ailleurs à me suggérer, pourquoi pas, des noms d'invités. Pensez à vous abonner pour ne pas louper les prochains échanges. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.